Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'ONG Save the Children l'a surnommé le tueur d'enfants oublié. Une maladie, la pneumonie, qui tue 2 enfants de moins de 5 ans chaque minute. Plus de 920 000 morts chez les plus jeunes, la moitié pour la seule Afrique subsaharienne. Tueur d'enfants oublié, peut-être parce que derrière ces chiffres effrayants se profile une réalité sanitaire odieuse. Les médicaments, les soins et la prévention pour traiter la pneumonie existent et sont peu coûteux. L'OMS estime qu'à avec moins de 95 millions d'euros chaque année, on pourrait traiter par antibiothérapie les enfants des 66 pays les plus exposés. C'est donc l'inaction publique et la ruine de certains systèmes de santé qui provoquent aujourd'hui et qui expliquent que cette infection des poumons provoque plus de décès chez les enfants que le paludisme, la diarrhée et la rougeole réunies. Avec nous en studio, le professeur Christophe Delacour, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service adjoint de pneumologie et d'allergologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, secrétaire général de la Société française de pédiatrie. Et tout à l'heure, nous retrouverons au Sénégal le professeur Mamadou Ba, pédiatre pneumologue et ancien chef du service des urgences et de pneumologie à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fan à Dakar, le professeur Mamadou Ba qui préside aussi l'association sénégalaise de pneumologie pédiatrique. À la fin de l'émission, vous retrouverez notre nouveau rendez-vous hebdomadaire dans Priorité Santé, Bulletin de Santé, pour passer en revue l'actualité médicale de la semaine écoulée dans le monde, avec au programme aujourd'hui l'urgence et la catastrophe humanitaire pour le Yémen, l'épidémie de peste contrôlée à Madagascar et la pollution record à New Delhi en Inde. Pour témoigner, pour poser vos questions, le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75. Professeur Christophe Delacour, pourquoi les enfants sont-ils particulièrement vulnérables à la pneumonie ?
Alors, ce sont surtout les jeunes enfants qui sont vulnérables vis-à-vis de la pneumonie, donc les enfants qui ont moins de 5 ans. C'est pour ça que les chiffres que vous avez donnés, qui sont effrayants, concernent les enfants de moins de 5 ans. Alors, ils sont vulnérables parce que c'est souvent le premier contact qu'ils ont avec les germes responsables de la pneumonie, donc ils n'ont pas d'immunité vis-à-vis de ces germes, donc ils sont beaucoup plus susceptibles que les autres de développer une infection à l'occasion du premier contact avec ces germes. Ensuite, dans les pays où la pneumonie fait des ravages, il y a d'autres facteurs qui rendent ces enfants vulnérables, le fait qu'ils ont une nutrition non adaptée, insuffisante. Pour certaines régions, le fait que l'allaitement au sein a beaucoup diminué et surtout également parce que dans beaucoup de pays, malheureusement, ces enfants ont un accès aux soins très insuffisant.
Alors, on va définir cette infection respiratoire aiguë. Les poumons sont touchés et il existe, professeur Christophe Delacour, plusieurs formes de pneumonie.
Absolument. Donc, pour que ça soit clair pour tout le monde, la pneumonie, c'est une infection. Donc il y a un microbe au départ qui est soit un virus, soit une pneumonie, mais les formes graves des pneumonies sont liées à des bactéries qui nécessitent donc des antibiotiques. Cette pneumonie, donc le germe se multiplie dans les poumons et va aboutir à des signes d'infection, donc de la fièvre souvent, mais des signes de gêne respiratoire, donc l'enfant se met à respirer vite, son thorax se mobilise de façon différente que d'habitude, c'est-à-dire que d'habitude ça se gonfle et là ça a plutôt tendance à s'enfoncer chez les petits, et l'enfant a un état général qui s'altère, il devient grognon, il est souvent un teint un peu pâle, voire grisâtre, il ne joue plus, il ne rit plus. Et ça, ce sont déjà des signes d'infection relativement sévères.
Est-ce que la fièvre est systématique ?
Je devrais vous dire oui. Et notamment dans les infections bactériennes, c'est vraiment exceptionnel que la fièvre ne soit pas présente.
Et des toux aussi, des toux marquées ? Est-ce qu'il y a des glaires, des fluides ?
Oui, mais c'est trompeur parce que la toux est fréquente chez les enfants qui sont déjà un petit peu âgés, au moins 2-3 ans. Chez les petits, elle peut manquer. Et l'infection ne se manifestera alors que par une respiration rapide et une altération de l'état général.
On connaît bien la bronchite. Comment est-ce qu'on peut distinguer une bronchite d'une pneumonie? De toute façon, pour un petit enfant, une bronchite, ça doit aussi inciter à consulter.
Oui, mais en fait, la bronchite, elle est essentiellement virale. La bronchite bactérienne, ça n'existe pas. Et la bronchite, justement, ne s'associe pas à ces signes d'altération de l'état général. En général, la fièvre est peu élevée. Ce sont des enfants qui ont une toux grasse, qui sont un peu gênés par leur toux, mais qui finalement continuent leur vie quotidienne normalement.
Avec des enfants qui sont donc beaucoup moins abattus.
Absolument.
Comment s'établit le diagnostic? On a parlé des symptômes. Est-ce qu'il y a des moyens pour confirmer justement ce soupçon de pneumonie?
Alors, l'examen qui confirme de façon certaine la pneumonie, c'est la radiographie de thorax, qui va montrer une image anormale dans les poumons. Quand la radio n'est pas accessible ou pas facilement accessible, eh bien, c'est un intervenant médical qui, en auscultant l'enfant, va trouver qu'il y a des signes anormaux à l'auscultation.
Ça veut dire que le message, c'est que si une maman voit son enfant qui a du mal à respirer avec ce mouvement justement de la poitrine qui s'enfonce au lieu de gonfler, avec cette grande fatigue, il faut vite aller voir un médecin.
Absolument, il faut consulter un centre médical pour que le diagnostic soit fait et si la pneumonie est confirmée, qu'il y ait le plus rapidement possible des antibiotiques.
Pourquoi ce facteur temps est-il si important, professeur Christophe Delacour ?
Parce que les bactéries dangereuses se multiplient très rapidement et à partir du moment où ces bactéries se multiplient rapidement, elles sont capables de diffuser non seulement au reste du poumon et donc de donner des pneumonies extrêmement sévères, mais également capables de diffuser par le sang dans d'autres organes, notamment les méninges. Et donc les complications vraiment très sévères, c'est l'extension de l'infection au poumon qui va finalement pouvoir aboutir au décès de l'enfant par insuffisance respiratoire ou le fait que l'enfant devienne malade dans d'autres organes et notamment au niveau cérébral et méningé et donc décède de complications très sévères neuroméningées.
Alors, quand justement la pneumonie a été diagnostiquée, quels traitements? Ce sont tout simplement des antibiotiques.
Un antibiotique, puisque ces germes sont en fait très dangereux, mais très fragiles, et un antibiotique simple comme l'amoxicilline fonctionne très bien sur le germe le plus dangereux, qui est le pneumocoque. Donc un simple traitement par l'amoxicilline va suffire à guérir l'enfant.
Alors, il y a le traitement, il y a aussi la prévention, et cette prévention, elle passe par la vaccination.
Elle passe par la vaccination, ça c'est clair. Elle passe aussi par une meilleure nutrition, elle passe par l'incitation à l'allaitement maternel pour les plus petits, qui sont des éléments dont on connaît absolument le rôle dans la prévention de ces infections.
Et tous les bénéfices, hein, jusqu'à 6 mois comme minimum.
Absolument.
Comme le recommande l'Organisation Mondiale de la Santé. Professeur Christophe Delacour, vous restez avec nous. On va maintenant donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et tout d'abord, une auditrice, c'est Naomi. Elle nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour, Naomi.
Oui, bonjour, c'est Naomi depuis Kinshasa.
Oui, on vous écoute.
J'allais savoir comment prévenir la pneumonie et comment je peux faire vacciner mes enfants, mon enfant qui a 4 ans.
Est-ce que vous avez déjà fait vacciner cet enfant ou pas encore?
Non, pas encore.
Professeur Christophe Delacour, c'est quoi le bon âge pour faire vacciner un enfant?
Alors le bon âge pour faire vacciner l'enfant, c'est le plus tôt possible, et donc avant l'âge de 6 mois, puisque en tout cas pour ce qui concerne la pneumonie, les formes très graves de pneumonie sont d'autant plus fréquentes que l'enfant est jeune. Donc notamment par exemple pour le pneumocoque et l'hémophilus, l'âge à laquelle est recommandée la vaccination, c'est 2 mois avec une deuxième injection à l'âge de 4 mois. Donc, à 4 ans, bien sûr, il faut toujours faire vacciner votre enfant, Naomi, mais l'idéal, c'est de faire vacciner les très jeunes enfants.
C'est-à-dire que si vous avez d'autres enfants qui viennent rejoindre votre famille, les faire vacciner plus tôt. Vous avez parlé de ces deux germes différents. S'agit-il d'un vaccin combiné ou d'un vaccin unique?
Alors, il y a Le vaccin contre le pneumocoque est un vaccin séparé. En général, le vaccin Hémophilus est intégré à d'autres vaccins, ce qu'on appelle le vaccin hexavalent, qui inclut également le tétanos, la diphtérie, la polio, etc.
Et la rougeole aussi, ne pas oublier cette vaccination qui peut justement prévenir des cas de pneumonie ultérieure.
Alors, la rougeole, évidemment, est déjà en soi-même une maladie dangereuse, mais au cours de la rougeole, une des complications très importantes, c'est la surinfection pulmonaire, et le vaccin de la contre la rougeole protège également une certaine proportion des pneumonies de l'enfant.
Naomi, est-ce que vous avez accès à un centre de vaccination à proximité de chez vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est accessible?
Oui, j'ai fait vacciner mes enfants jusqu'à l'âge de 9 mois.
Ben, c'est une très bonne mesure, comme vient de nous l'expliquer le professeur Delacour. Merci beaucoup, Naomi, pour votre appel. On va rester en RDC à Kisangani, en ligne avec nous. C'est Abel. Bonjour, Abel.
Oui, bonjour, madame.
On vous écoute.
Bonjour, bonjour madame.
Oui. On vous écoute.
Je voulais un peu témoigner et si poser quelques questions. J'ai mon enfant qui a une année et 7 mois, qui a aussi souffert de la pneumonie juste après quelques jours de sa naissance et étant inquiété parce que l'enfant n'arrivait pas à prendre le lait maternel de sa maman. Nous sommes rendus au centre de santé le plus proche pour pouvoir essayer un peu de trouver une solution adéquate. Arrivé, les médecins nous avaient obligés de passer quelques examens pour pouvoir savoir les causes qui étaient à la base de cette maladie. Et après les examens radiographiques au niveau du thorax, il y a eu une infection au niveau des poumons gauche de l'enfant. Et après les traitements, en tout cas l'enfant était guéri. Et voilà un peu jusque-là, mais elle n'est pas encore vaccinée. Juste après avoir atteint l'âge de 6 mois. Pour les questions, je voulais un peu savoir les causes exactes qui sont à la base de cette infection juste après quelques jours de la naissance des enfants. Parce que j'ai aussi une voisine qui a connu les mêmes problèmes et puis au même centre de santé. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je voulais un peu savoir la responsabilité des médecins ou des accoucheurs avant d'envoyer les enfants à la maternité. Parce que c'est presque le même problème qui s'est posé au même centre de santé. Est-ce que les médecins ne peuvent pas avoir une responsabilité dans la cause même de cette maladie?
Professeur Christophe Delacour, Abel, hein, cet auditeur s'interroge sur les causes de la survenue de la pneumonie chez un enfant quelques jours après la naissance. Il s'interroge peut-être aussi sur des questions sanitaires, éventuellement une contamination. D'après vous, ce serait plutôt quoi, une transmission de la mère à l'enfant?
Alors c'est possible. Alors déjà, je suis heureux d'entendre que cet enfant va bien parce que l'infection d'un nouveau-né, c'est extrêmement grave. Et donc je dirais que cet enfant a bénéficié quand même de soins tout à fait adaptés parce que d'abord il a eu un bon diagnostic et ensuite un bon traitement qui a permis de guérir potentiellement une infection très grave. Alors dans les infections respiratoires du nouveau-né, le plus souvent effectivement il s'agit d'une transmission de la mère à l'enfant juste avant ou pendant l'accouchement via le placenta. Donc si la mère a eu de la fièvre, par exemple, juste avant ou pendant l'accouchement, c'est souvent le témoignage d'un risque pour le nouveau-né d'avoir lui-même une infection. Après, on ne peut pas complètement exclure qu'il puisse y avoir une contamination immédiatement après la naissance liée à ce qu'on appelle ici une infection nosocomiale. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. Le facteur numéro un de l'infection du nouveau-né, c'est quand même la transmission d'un germe de la mère à l'enfant.
Même si la maman n'a pas développé forcément une grosse pneumonie.
Même si la maman n'a pas... Ah bah oui, tout à fait. Parce que, par exemple, Il y a d'autres germes très spécifiques pour le nouveau-né, comme le streptocoque B, par exemple, dont la mère peut être porteuse au niveau vaginal et qui peut donner des infections chez le nouveau-né, y compris au niveau respiratoire.
Ça veut dire que la maman ne savait pas qu'elle était malade. Ça s'est transmis
c'est
et
possible,
c'est comme ça.
Absolument.
Et c'est pas forcément parce qu'il y a eu des problèmes au niveau d'une transmission d'un germe dans l'hôpital. On
en,
peut
tout
pas
cas,
le savoir,
en fréquence. Très probablement, c'est une transmission de la mère à l'enfant. On ne peut pas complètement exclure qu'il puisse y avoir un problème de contamination lié à des mauvaises hygiènes au centre de soins.
Abel, est-ce que la réponse du professeur de la cour vous convient?
Oui, mais convient. Et puis, il y a eu quelques éléments relevés par les docteurs qui cadrent aussi avec l'état de santé de sa maman qui a aussi beaucoup souffert avant l'accouchement de ma fille. Pour je ne sais pas si je peux poser une dernière question pour ne pas vous prendre trop de temps.
Vous pouvez, si elle est liée à la pneumonie, bien sûr.
Oui, bien sûr. Par rapport à l'accessibilité au vaccin, qui est, je ne sais pas si c'est disponible en Afrique, et puis quel est l'organisme qui s'occupe de cela?
Est-ce que dans le centre de soins, justement, où vous étiez rendu, même à la maternité, vous n'avez pas posé la question, justement, après que cet enfant ait reçu le traitement, j'imagine, par antibiotiques pour la pneumonie, il n'a pas été vacciné?
L'enfant n'a pas été vacciné. En fait, on a procédé à la transfusion de quelques antibiotiques. On s'était limité à ce niveau-là. Ce qui concerne le vaccin, en tout cas, l'enfant n'a pas été vacciné.
Alors, la distribution des vaccins, elle est en fait très variable selon les pays et même les zones géographiques dans les pays. Donc moi, ce que je vous conseille, effectivement, c'est d'abord effectivement de faire vacciner votre enfant, mais de vous rapprocher du centre médical qui suit votre enfant pour leur poser directement la question « Comment faire vacciner votre enfant ?» Je ne peux pas vous donner une réponse générale parce que ça dépend vraiment des circuits locaux pour les vaccins de ces jeunes enfants.
Vous avez un dispensaire, un hôpital à proximité vers lequel vous vous dirigez le plus souvent, Abel ?
Oui, nous avons un hôpital qui est aussi bien équipé. Mais est-ce que la fréquence de vaccination, ça varie ou soit l'enfant est déjà en bonne santé? On doit quand même toujours la vacciner.
Absolument. Le fait qu'elle ait eu une infection à la naissance, elle a eu une infection vis-à-vis d'un germe donné et donc elle n'est pas protégée. Alors je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, donc je dis elle, mais c'est peut-être un petit garçon. Cet enfant, en tout cas, n'est pas protégé pour les autres germes. Donc chaque vaccin ne protège que contre une bactérie. Donc c'est très important de compléter les vaccins pour que cet enfant puisse être protégé sur l'ensemble des germes qui sont susceptibles de l'infecter au cours de son enfance.
Oui, donc vacciner l'enfant, ça concerne les problèmes de la pneumonie. Oui.
C'est très important.
Nous avons aussi suivi les programmes par rapport à d'autres vaccins.
Oui, bien sûr.
Ça n'a pas trait avec le vaccin de la pneumonie.
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le programme de vaccin, mais il est possible que là où vous habitez, les vaccins de la pneumonie soient intégrés dans ce programme de vaccination.
Donc, ce qui est important, c'est peut-être d'aller voir le centre de santé avec le carnet de vaccination de l'enfant. Et ils pourront vous renseigner s'il y a encore des injections à réaliser, Abel. Merci beaucoup de votre appel de Kisangani. On va continuer tout à l'heure en deuxième partie d'émission les échanges avec les auditeurs de RFI avec beaucoup de questions sur la manière de repérer la pneumonie pour éventuellement réaliser un meilleur diagnostic dans un temps relativement limité, puisque on l'a compris depuis le début de l'émission, le facteur temps est vraiment déterminant. Vous restez avec nous, professeur Christophe Delacour. On va se retrouver après les informations, dans 3 minutes, toujours pour parler de cette infection pulmonaire qui fait des ravages en particulier chez les plus jeunes, infection pulmonaire aiguë. Vous pouvez continuer à nous appeler, vos témoignages, vos questions. Le numéro, c'est le 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé.
Caroline Paré.
Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission Priorité Santé consacrée à la pneumonie, une maladie qui à elle seule tue 15% des enfants de moins de 5 ans et qui reste la première cause de mortalité infectieuse dans les pays développés, mais là surtout chez les personnes âgées. Toujours avec nous en studio, le professeur Christophe Delacour, chef de service adjoint de pneumologie et d'allergologie pédiatrique à l'hôpital enfant malade Necker à Paris, secrétaire général de la Société française de pédiatrie. Professeur Delacour, est-ce qu'une radiographie pulmonaire est indispensable pour établir un diagnostic de pneumonie?
Alors, si l'on veut être certain du diagnostic, oui, mais en pratique, dans de nombreux pays, l'accès à cette radio est difficile et le diagnostic de pneumonie sera basé sur les signes cliniques et l'auscultation par un médecin qui va trouver des signes anormaux à l'auscultation compatibles avec la pneumonie. Et dans ces situations, l'association de symptômes et d'une auscultation anormale doit suffire à proposer des antibiotiques à l'enfant.
Alors on le souligne, hein, cette pneumonie particulièrement dangereuse chez les plus jeunes. On va prendre un autre auditeur en ligne. C'est Léon qui est en ligne de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Léon.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai un enfant qui a aujourd'hui 3 ans. Mais à l'âge de 1 an et demi, il est tombé malade. Une toux avec des fièvres élevées. Nous sommes allés à l'hôpital. On a consulté un pédiatre qui nous a demandé de faire une radio qu'on a faite. Et on lui a diagnostiqué une pneumonie. On nous a mis sous antibiotiques pendant 10 jours. On a respecté le traitement. La pneumonie a disparu. On a refait une radio qui a révélé que c'était parti. Mais moins d'un mois après, l'enfant a rechuté. Nous sommes repartis chez le même pédiatre qui nous a repris le même traitement qu'on a refait. La pneumonie est repartie. Mais 3 mois après, elle est revenue. Cette fois-ci, on a décidé d'aller voir un spécialiste à l'hôpital Germaux de Yaoundé qui est spécialisé dans les problèmes de poumons. Nous sommes partis, c'était une demoiselle ou une dame, nous l'avons vue. Elle nous a conseillé de faire le test d'allergie. Donc, elle a appelé ça le stick test. Il ne sait plus trop, le médecin pourra nous dire de quoi il s'agit. On a découvert qu'il n'y avait pas d'allergie. Elle nous a mis sur l'antibiotique et la maladie est repartie. On a repris une radio qui a confirmé qu'elle est partie, mais c'est toujours la même chose. 3 mois après, elle revient, on crête, elle repart. À ce moment, on ne peut pas même faire l'hôpital. Quand elle revient, on le crête nous-mêmes. Pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il faut faire pour qu'elle parte définitivement.
Alors, cette question de Léon, cette pneumonie récidivante, multirécidivante, il a fait une radio des poumons de son enfant. Comment l'expliquer?
Alors, est-ce que je peux vous demander, Léon, si à chaque fois c'est au même endroit l'infection chez votre fils?
Bon, là, je n'ai pas prêté attention. Moi, je dis que c'est une pneumonie. Je pense à savoir si c'est le même poumon ou...
D'accord. Alors ça, c'est une question très importante qu'il faudrait que vous voyiez avec votre médecin, parce que si l'infection se répète exactement au même endroit, il faut se méfier que, surtout comme ça a commencé à 18 mois, à 1 an et demi, hein, si j'ai bien compris, il faut se méfier que votre enfant n'ait pas éventuellement inhalé un petit corps étranger qui bloque un peu la bronche et donc favorise localement la répétition des infections. Ça, c'est un élément qui est très important parce que quand les infections se répètent comme ça, il faut toujours essayer de chercher une cause favorisante.
Professeur Christophe Delacour, je vous interromps, je m'excuse. Juste inhaler un corps étranger, hein, ça veut dire s'enfoncer dans le nez un petit objet qui normalement n'aurait pas dû y aller. Par exemple, ça peut être quoi?
Alors, ça peut être effectivement des enfants qui jouent avec un petit objet en plastique, ils le mettent dans la bouche quand même bien le faire les petits enfants, mais ça peut être aussi à l'occasion d'un repas, un morceau alimentaire qui passe au mauvais endroit. Alors l'enfant tousse beaucoup à un moment donné, puis ça disparaît, on pense que tout est fini, et en fait, il y a un petit corps étranger qui s'est mis dans les bronches.
Alors, Léon disait tout à l'heure que son enfant avait subi plusieurs radios, ça n'apparaît pas à la radiographie?
Alors, beaucoup de corps étrangers ne se voient pas à la radiographie.
Ça peut paraître étonnant. hein, pour le public étranger.
Il y a des corps étrangers qui sont ce qu'on appelle radio-opaques, donc qu'on voit sur la radio. Mmh. Donc cela, c'est facile, mais la plupart, et notamment les corps étrangers alimentaires, ne se voient pas sur une radio. On n'en voit que les conséquences, c'est-à-dire le fait qu'il y a un endroit qui s'infecte ou le fait que l'air ne circule pas bien dans cette partie de poumon. Alors après, Léon, il souligne qu'on a fait, par exemple, des tests d'allergie à son fils. Ça, c'est également intéressant parce que quand il y a des infections qui se répètent, mais à des endroits différents du poumon, l'asthme, par exemple, est une maladie qui favorise les infections à répétition, mais à ce moment-là, elles ne sont pas au même endroit. Donc la question de savoir si, chez le fils de Léon, c'est au même endroit ou pas au même endroit est absolument essentielle pour comprendre qu'est-ce qui pourrait améliorer cet enfant.
Léon, un conseil donc.
Est-ce que vous vous posez une autre question?
Oui, on vous écoute.
Après, sa mère m'a fait part d'une chose. Elle me dit que lorsqu'il était né, quelques minutes après, elle a entendu tousser. Est-ce que ce ne peut pas être une cause de tout ce qui arrive aujourd'hui là? Parce que je me suis dit que c'était une infection qu'il est né, avec laquelle il est né, ou alors qu'il a été contaminé au niveau de la naissance. Je ne sais pas quoi.
Je ne peux pas vous répondre complètement. Avec certitude, mais je pense que s'il y avait eu quelque chose qui soit les suites de la naissance, votre fils aurait été malade avant l'âge de 18 mois. Hein, j'ai compris que le premier épisode était à 18 mois. Je pense du coup qu'il n'y a pas vraiment de lien avec ce qui s'est passé à la naissance.
Okay. Et le fait, moi-même, j'ai été malade quelques mois avant sa conception. Une pneumonie aussi. J'ai eu une pneumonie peut-être 3 mois avant sa conception. Je ne sais pas si ça peut être...
Non, ça, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas.
En tout cas, sur s'attaquer au côté récidivant de la maladie, donc retourner consulter pour essayer de déterminer l'origine précise de cette maladie pour bien en cibler la raison et donc choisir le traitement adapté. Merci beaucoup, Léon, de cet appel de Yaoundé. On va maintenant partir pour le Sénégal, où on retrouve à Dakar le professeur Mamadou Ba. Bonjour.
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 Vous êtes pédiatre pneumologue, ancien chef de service des urgences et de pneumologie à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann à Dakar, président de l'association sénégalaise de pneumologie pédiatrique. Est-ce que vous avez des chiffres qui concernent cette maladie, hein, la pneumonie pédiatrique au Sénégal?
Merci Caroline. Permettez-moi de dire un bonjour au professeur Delacour.
Bonjour.
Mais également de saluer les auditeurs de la RFI, la radio mondiale. Pour répondre à votre question, les pneumonies font partie des infections respiratoires aiguës, communément appelées IRA, qui constituent dans nos pays un véritable problème de santé publique de par leur morbidité importante et leur mortalité élevée. Au Sénégal, les enquêtes nationales ont permis de démontrer que 40% des enfants étaient atteints de pneumonie au niveau national. Et ces chiffres sont à mettre en parallèle avec les chiffres que nous avons rencontrés à Albert Royer, où on a vu que 30 à 50% des enfants consultent pour IRA, et ces IRA sont responsables de plus de 30% des hospitalisations à l'hôpital d'enfants Albert Royer, qui est un hôpital de niveau 3 situé à Dakar. Et cette prévalence explique un peu la mortalité élevée liée à cette affection, notamment au Sénégal. On déplore plus de 15% de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans liés à la pneumonie.
Alors pourquoi? Parce que les enfants sont soignés trop tard? On parlait justement, on a insisté sur ce point depuis le début de l'émission, sur l'importance de consulter très tôt, dès que l'on décèle justement les symptômes, ces problèmes respiratoires chez le petit avec une respiration saccadée.
Vous avez parfaitement raison, parce que les enfants nous viennent très tardivement. La tendance des populations, quand l'enfant souffre de problèmes respiratoires, c'est de dire en wolof de nebi de ferec, qu'on peut traduire comme quoi la poitrine est déplacée, et le traitement de cette affection dépend essentiellement des tradis praticiens, ce qui retarde l'acheminement de ces enfants vers les structures sanitaires, et les enfants souffrant de pneumonie nous viennent très tardivement dans des états gravissimes, compliqués, soit de méningite, compliqué soit d'affection pleurale, compliqué souvent.
Ça veut dire que c'est tellement fréquent que dans le langage commun, eh bien, on a donné une dénomination locale à cette affection chez les enfants. Justement, vous parliez des tradis praticiens. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour essayer de soigner, de traiter les enfants dont les parents viennent les voir, les consulter?
Alors, ils font des incantations. Parfois, ils donnent des potions. Parfois, ils font des massages au niveau du thorax. Mais ceci s'est révélé inefficace et ça ne retarde que la consultation dans une structure sanitaire qui pourrait prendre en charge correctement ces enfants.
Où en est, docteur, professeur Mamadouba, pardon, où en est la vaccination au Sénégal?
Alors, la vaccination, heureusement, la vaccination au Sénégal, nous avons un programme élargi de vaccination qui est très performant, qui comporte tous les antigènes et surtout les antigènes qui sont protecteurs contre les maladies évitables par la vaccination, notamment les antigènes contre la rougeole et la coqueluche, qui sont les grandes pourvoyeuses de pneumonie. Mais également, récemment, depuis les années 2005, des vaccins conjugués anti-hémophilus ont été introduits et en 2013, des vaccins conjugués anti-pneumocoque ont été introduits. Et ces vaccins ont montré leur efficacité parce que nous avons fait une étude d'impact à l'hôpital d'enfants Albert Royer et nous nous sommes rendus compte, après 2 à 3 ans d'utilisation de ces vaccins-là, il y a eu une réduction drastique des affections invasives à pneumocoque et à hémophilus influenza. Et ce qu'il faut dire également, ces vaccins sont disponibles partout. Et ces vaccins sont gratuits.
Alors, on va insister sur ce fait, hein, professeur Mamadouba, pour toutes les mamans, pour les parents qui écoutent au Sénégal, vaccin gratuit pour protéger les enfants contre la pneumonie. C'est très important.
C'est très important, votre message. C'est des messages clés que nous allons adresser aux populations pour insister davantage sur le rôle protecteur de l'aliment maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, suivi d'une alimentation équilibrée, mais également de faire vacciner les enfants, parce que les vaccins sont efficaces, sont disponibles, accessibles, et surtout, c'est des vaccins gratuits. Mais également, il faut inciter les populations à lutter contre les facteurs environnementaux néfastes, tels que la fumée, quelle qu'en soit l'origine, l'encens, les feux de bois, le charbon de bois, la fumée de cigarette. Mais également, inciter ces populations à amener leurs enfants en consultation très rapidement devant les signes de pneumonie, tels que la fièvre, la toux, les difficultés respiratoires, le tirage et la polymnée. Et surtout, demander aux parents d'éviter au maximum l'automédication qui peut favoriser la résistance aux antibiotiques.
Merci beaucoup, hein, professeur Mamadouba. Message très clair pour justement mieux informer, mieux prévenir contre cette maladie. Je rappelle que vous êtes pédiatre pneumologue, ancien chef du service des urgences et de pneumologie à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fan à Dakar. Le professeur vient d'insister sur ce point, professeur Christophe Delacour. Il y a aussi des facteurs environnementaux qui Absolument. Sont très importants. Quand on respire un air qui n'est pas bon, on n'a pas une bonne santé respiratoire.
Absolument. Je crois que le message du professeur Mamadouba était vraiment extrêmement important et effectivement très clair. Et il a tout à fait raison d'insister sur les facteurs environnementaux qui sont bien connus comme aggravant la susceptibilité du jeune enfant aux infections respiratoires. Et je voudrais également, par rapport à ce qui a été dit, insister vraiment lourdement sur l'apprentissage des signes de reconnaissance de la pneumonie et l'accès aux soins, puisque l'OMS a compilé toutes les études qui montraient que quand on améliorait la reconnaissance des symptômes et l'accès aux soins, on diminuait de 30 à 40% la mortalité par pneumonie.
On voit qu'il y a des moyens, vraiment.
Voilà.
On va prendre un autre auditeur en ligne. C'est James qui nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes pédiatre, il a une question pour sa propre santé. On va l'entendre. James, bonjour.
Bonjour, madame.
On vous
bonjour,
écoute, monsieur. James.
Bon, moi, j'avais fait la radio à la date du 14-10-2017. Voici le compte rendu. Opacité hétérogène d'allure cavitaire du lobe supérieur droite, à limite externe verticalisée syphirale. Champ gauche normaux, transparence. Kiel des sacs pleuraux libres. Cœur de volume normal. Paroi thoracique normale. Conclusion, pneumonie atélectique. quasi que du lobe supérieur droit.
James, j'ai une question. Il n'y a pas un médecin généraliste qui vous a fait une lecture de votre bilan de radiographie, qui vous a un petit peu expliqué tout ça? Tous ces termes, je vous le dis franchement, que moi-même, j'ai beaucoup de mal à comprendre.
Oh non, 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 non. Je l'ai fait chez un ancien ministre du gouvernement. Du gouvernement Kabila, c'est un spécialiste en radio, c'est tous les docteurs ici à Kinshasa, on envoie des gens là-bas, chez le CKR, d'accord. Docteur Matusila.
D'accord, un très bon radiologue, comme vous venez de le souligner très certainement, mais en tout cas, il y a peut-être besoin d'autres explications. Professeur Christophe Delacour, qu'est-ce que c'est une pneumonie atélectasique? Alors, j'ai réussi.
Dans ce que vous m'avez dit, alors, je comprends que du coup, que ça vous concerne directement. Donc c'est un petit peu délicat par radio, mais et puis en plus moi je suis pédiatre, mais dans ce que vous nous avez dit, James, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous nous avez parlé d'une pneumonie avec des cavités, hein, vous avez dit pneumonie cavitaire, et pour moi, quand c'est au sommet, le premier diagnostic qu'il faut éliminer, c'est la tuberculose, hein, dans cette situation-là. Donc je ne sais pas si on vous a fait faire des examens pour éliminer cette infection, qui reste assez fréquente à Kinshasa.
Bon, pour être un peu direct, j'ai souffert de tuberculose il y a 10 ans. Donc, la première fois et puis la deuxième fois, j'avais suivi tous les traitements. Mais avant que j'aille à la radio, j'avais pris de whisky là, des boissons là secs. Donc ça m'a causé, j'ai craché de 10 ans. Et après, quand je suis parti voir le médecin pour la tuberculose, ils m'ont envoyé pour faire la radio. Et c'est ça le résultat de la radio. Mais quand j'ai fait l'examen de la tuberculose, il n'y avait pas de tuberculose.
Ben, je ne sais pas, vous avez... Enfin, c'est difficile d'en dire plus parce que directement là en radio, mais je pense que vraiment c'est quand même le premier diagnostic à éliminer formellement. Et vous, comme vous le savez sûrement, il faut avoir plusieurs examens de crachat pour être certain qu'il n'y ait pas la tuberculose. Mais je crois que c'est vraiment le premier examen à éliminer. Après, il faut évidemment que vous ayez d'autres examens pour savoir pourquoi vous crachez du sang et pourquoi vous avez cette infection qui manifestement ne guérit pas chez vous. Donc peut-être même une fibroscopie serait nécessaire pour aller plus loin.
Professeur Christophe Delacour qui vous donne donc ces informations. Mais James, hein, vous l'avez bien compris, la nécessité pour vous d'aller consulter près de chez vous, amener ces radios, peut-être faire des examens complémentaires pour en savoir plus sur votre état de santé. En tout cas, merci beaucoup de cet appel, James. On n'a pas parlé véritablement des complications, des maladies que peuvent entraîner justement une complication d'une pneumonie. Il y a des états extrêmes, hein, comme une septicémie. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le germe se multiplie dans les poumons. Et le poumon, c'est un organe dans lequel il y a beaucoup de sang qui passe. Et à l'occasion de cette multiplication des germes, il peut y avoir des germes qui passent dans le sang. Et c'est là où on va parler de septicémie. La septicémie, c'est le passage d'un germe dans le sang. Et à l'occasion de ce passage dans le sang, eh bien, le germe va être transporté dans d'autres organes de l'enfant. Et notamment, on redoute absolument, et le professeur Mamadouba nous en a à nouveau reparlé, du fait qu'à l'occasion de ce transport par le sang, le germe se met à se multiplier, notamment dans les méninges.
Un dernier appel, Lamine, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes en ligne de Dakar au Sénégal. On vous écoute, Lamine.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors de mes stages au service en médecine interne, on avait un patient atteint de bronchopneumopathie obstructive et qui était chronique. Et en plus, après examen médical et tous les consorts, on a décelé en plus une pneumonie. Qu'à la suite, le patient a présenté des épistaxiques et en plus des hématémèses. C'est la raison pour laquelle que j'aimerais savoir tout ce qui est diagnostic différentiel par rapport à la pneumonie et tout ce qui est diagnostic de gravité.
Cette question de Lamine qui est étudiant en médecine, je suis navrée, on a à peine 20 secondes pour y répondre.
Alors, là encore, je pense que ça concerne beaucoup des problèmes chez l'adulte, si j'ai bien compris, si j'ai entendu le BPCO. C'est clair qu'il y a des pathologies sous-jacentes qui favorisent la pneumonie et tout ce qui est bronchopathie obstructive sont des conditions favorisantes pour les pneumonies.
Merci Lamine en ligne de Dakar au Sénégal. Merci professeur Christophe Delacour. Je rappelle que vous êtes chef de service adjoint de pneumologie et d'allergologie à l'hôpital Necker à Paris.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous dans le cadre de Priorité Santé, notre tour d'horizon de l'actualité médicale et sanitaire pour la semaine écoulée. Rendez-vous que nous vous donnons désormais chaque vendredi. Alors, à la une de ce bulletin de santé du 10 novembre, l'urgence pour le Yémen. Il y a 48 heures, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné la situation humanitaire catastrophique dans ce pays, soumis depuis lundi à un blocus. Le Yémen, pays en guerre depuis 2015, est menacé par la plus grande famine de ces dernières décennies, qui d'après les Nations Unies pourrait faire des millions de victimes. Fermeture des ports, aéroports, accès routier à l'initiative de la coalition qui est commandée par les Saoudiens, dont le territoire avait été visé samedi par un tir de missile. 15 organisations humanitaires ont donc dénoncé ce blocus dans un contexte de crise alimentaire aiguë, également d'une épidémie de choléra. Le Comité international de la Croix-Rouge est présent au Yémen et fait part également de sa préoccupation. Soumaya Beltifa, porte-parole du CICR à Sanaa, la capitale qui est en ce moment aux mains des rebelles yéménites.
Le CICR est inquiet par rapport à cette situation actuelle, surtout par rapport au fait que l'aide humanitaire n'arrive pas à entrer au Yémen, étant donné que tous les accès, que ce soit par voie terrestre, par voie aérienne ou par voie maritime, sont pour l'instant bloqués. Et ceci aura des conséquences fâcheuses sur les Yéménites et leur vie au quotidien. Actuellement, le CICR dispose de certains stocks, surtout pour les stocks en nourriture. Par contre, tout ce qui est médical, nous risquons vraiment d'avoir beaucoup de problèmes. Les besoins sont énormes. Comme vous le savez, le Yémen est en conflit depuis plus que 2 ans maintenant et la situation, elle est vraiment catastrophique. Et donc, c'est très important que ce blocage soit levé pour que les humanitaires et l'aide humanitaire puissent arriver au Yémen et sauver les Yéménites.
La porte-parole du CICR à Sanaa avec Muriel Paradon. Cette annonce de l'OMS, l'épidémie de peste est contrôlée à Madagascar. Aucun décès dans la capitale, Antananarivo, depuis lundi. Même chose pour l'autre grande ville, le port de Tamatave, là depuis 12 jours. Tana et Tamatave, les deux foyers les plus actifs de l'épidémie. La peste qui a causé au total 133 morts dans la grande île et atteint plus de 1200 personnes depuis le début du mois d'août. Et pour le ministre malgache de la Santé publique, une bataille est gagnée, mais ce n'est pas vraiment la fin de la guerre. Des fraudes en série qui privent la lutte contre Ebola de près de 5 millions d'euros. Ce détournement de fonds, c'est la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui les ont dénoncés ce week-end. Une enquête a révélé une série d'escroqueries sur les fonds destinés à combattre l'épidémie qui avait tué plus de 11 000 personnes en 2014-2016 en Guinée, Sierra Leone et au Libéria. Des malversations commises par des employés d'une banque de Sierra Leone, avec d'ailleurs la complicité d'anciens membres de la Croix-Rouge. Trafic de fausses factures aussi, là ça s'est passé en Guinée. Et puis enfin, des surfacturations au Libéria. État d'alerte à la pollution lancé jeudi pour New Delhi dans le nord de l'Inde. Une situation exécrable d'après le ministre régional des Transports. Des particules fines issues notamment de brûlis agricoles stagnent sur la capitale qui compte pas moins de 20 millions d'habitants et vient donc s'ajouter au gaz d'échappement des voitures et aux fumées des usines. Ces concentrations dépassent de près de 20 fois les taux recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Santé et environnement toujours, avec en Europe le débat sans fin autour du glyphosate, cet herbicide classé cancérogène probable par l'OMS. Les pays de l'Union européenne restent en désaccord pour renouveler la licence du produit qui arrive à expiration bientôt, le 15 décembre. Blocage sur une proposition de renouvellement pour 5 ans. Et la France, justement, fait partie des États qui freinent aux côtés de l'Italie ou encore de l'Autriche. La prise en charge de la dépression insatisfaisante en France, c'est un avis négatif qu'a rendu mercredi la Haute Autorité de Santé. Elle pointe le mauvais usage des antidépresseurs, trop ou mal prescrits, administrés souvent sans assistance psychologique. Avis assorti d'une série de recommandations adressées aux médecins généralistes en matière de diagnostic, en matière de suivi et également de ciblage des personnes à risque. Et puis pour conclure, cette première réalisée par une équipe de médecins allemands et italiens dans le domaine de la dermatologie. L'étude est publiée par la revue Nature. Une nouvelle peau greffée sur un petit garçon qui était atteint d'une grave maladie héréditaire, l'épidermolyse bullaire. 80% de son épiderme a ainsi été reconstitué à partir de cellules souches modifiées génétiquement et mises en culture, donc avant d'être greffées à l'occasion de 3 opérations chirurgicales successives. Bilan, 2 ans après la chirurgie, l'enfant, qui aujourd'hui est âgé de 9 ans, mène une vie normale. Aucune récidive n'a été constatée. Priorité Santé touche à sa fin. Merci encore à vous, professeur Christophe Delacour, pour avoir participé à cette émission consacrée à la pneumonie pédiatrique. On l'a compris, un double message très important. Consultez vite quand il y a un doute et faire vacciner les enfants. Lundi, dans Priorité Santé, à l'occasion des commémorations du 2e anniversaire des attentats de Paris et Saint-Denis, nous consacrerons notre émission aux blessés du 13 novembre. Le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 1 80 82 75 75. À lundi.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.